VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. L'opposition à RDC est divisée au sujet d'une marche prévue demain vendredi. L'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, se tient à l'écart et appelle à aller aux élections avec ou sans la machine à voter, contester. Mais les autres ne sont pas d'accord et veulent justement manifester contre la machine en question et les 25% d'électeurs sans empreinte digitale. Le secrétaire général adjoint du mouvement pour la libération du Congo, MCL, Fidel Babala, affirme que son mouvement reste déterminé.
Jusqu'à preuve du contraire, la machine à voter, on ne peut pas considérer que la RDC devienne un vaste champ d'expérimentation pour la machine à voter, compte tenu de la configuration actuelle sociologique et au niveau de l'éducation de notre population. On ne peut pas prendre ces risques. Il s'agit de pouvoir capter la volonté du souverain primaire qui doit être claire, transparente et crédible. Nous avons la détermination de faire en sorte que cette machine soit écartée du processus électoral. Nous ne sommes pas les seuls. La société civile voudrait aussi faire écarter cette machine. Je vous informe qu'il y a une pétition qui est en cours au niveau du comité laïque de coordination et nous appuyons, nous, l'opposition pour que la majorité de notre peuple démontre les rejets de la machine à voter.
Fidel Babala, secrétaire général du MLC, le mouvement pour la libération du Congo. Au Congo-Brazzaville voisin, les populations qui sont revenues de guerre dans le Poul tentent de se donner un nouveau destin. C'est dans une savane à perte de vue où poussent de gros arbustes que, par exemple, les déplacés de Missié-Missié dans le district de Mindouli ont choisi d'ouvrir avec des outils aratoires 7 km de route dans un sol sablonneux grâce aux vivres du PAM financé par le gouvernement américain. Ces retournés de guerre du Poul veulent rapidement rendre accessible leur bassin de production au marché local. Reportage de notre correspondant sur place à Seine.
Ce bruit de scie à moteur pour couper les arbres rompt avec le silence lugubre qu'a imposé pendant 2 ans le conflit armé à Missié-Missié dans le district de Mindouli. Ici, les populations qui avaient fui commencent à revenir et il faut organiser une nouvelle vie. Le programme alimentaire mondial qui a l'habitude de leur fournir de la nourriture fait une nouvelle offre. Jean-Martin Bauer est le représentant du PAM au Congo.
Les gens sont rémunérés en vivres. Ils reçoivent environ l'équivalent de 360 francs CFA par jour, par personne dans leur ménage, pour travailler sur ce site. Alors ils déblayent, ils désherbent, ils dessouchent. On a élargi le passage ici. Vous voyez maintenant, ça fait 4 mètres de large. Donc les véhicules peuvent passer là où le passage était impossible avant. Et donc ça désenclave environ 1000 personnes sur cet axe-là. Ça permettra l'évacuation des produits agricoles, l'accès aux hôpitaux, l'accès aux services sociaux. On pense que c'est un grand progrès pour la zone. Mais là où vous voyez ici, il y avait la forêt. Et maintenant, on a ce passage.
Pour Antoinette Ndigandiodo, ministre en charge de l'action humanitaire, c'est important d'être d'accord de ne plus se faire nourrir gratuitement.
Ce que nous faisons maintenant, c'est le relèvement, la réhabilitation des moyen de vie. Et la route est utile pour cette population pour aller de leur lieu de production vers là où ils peuvent vendre. Au lieu de continuer à donner l'assistance alimentaire gratuite, nous leur donnons l'assistance alimentaire contre le travail qu'ils vont faire.
Une logique accepte volontiers Philippe Mabouaka, chef du village Missié-Missié, mais aussi à la tête de la communauté des travailleurs sur cette nouvelle piste agricole.
Vraiment à plus de contour. Et ça va nous servir à faire rentrer des véhicules commerciaux pour que ceux qui sont ici soient bien occupés. Pour les haricots, les gombos, les aubergines, toutes choses qu'on fait à Brazzaville, même européennes, on les fait vraiment. Les maniocs, les arachides, surtout que les haricots, hein, à des gens qui vont à 300 sacs, 400 sacs. Mais donc, il se posait un problème de déplacement. Parce que vous comprenez qu'une femme, quand elle quitte Amokongouto pour venir à Missié-Missié, il faut qu'elle fasse au moins 5 heures de temps. Mais actuellement, maintenant, c'est une heure que tu es à Missié-Missié. Donc, on est très content.
L'ambassadeur des États-Unis, Todd Haskell, a fait la visite de terrain et sait maintenant comment est utilisé l'argent du contribuable américain dans le pool.
Maintenant, je crois que c'est un très bon projet parce que les membres des communautés, des jeunes, ils travaillent, ils reçoivent de la nourriture, mais aussi, ils ont l'opportunité de faire des choses qui sont bonnes pour la communauté. C'est un projet que tout le monde gagne. C'est gagne-gagne. Et je suis très fier que les États-Unis peuvent jouer un rôle avec des membres de la communauté pour le faire.
En 2017, les autorités avaient lancé un appel à fonds de 23 millions de dollars pour financer le programme de relèvement précoce. L'argent n'arrive toujours pas et il faut bien commencer avec le peu qui existe. De retour de Missié-Missié dans le Poul à Mindouli, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Des affrontements entre l'armée tchadienne et des terroristes ont eu lieu mercredi à Miski, dans la région de Tibesti, une zone du nord du Tchad peu contrôlée par les autorités de N'Djamena, selon un communiqué militaire reçu ce jeudi. Le texte, qui ne donne aucun bilan humain, indique que la situation est sous contrôle. Aucune précision n'est fournie dans le communiqué sur les terroristes incriminés.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Yahya Jammeh, ancien président de la Gambie, dans le viseur des ONG des droits humains, hier, c'est la coalition Jammeh to Justice qui a réclamé justice pour les victimes de l'ancien homme fort de Banjul. Jammeh to Justice réclame le jugement de Yahya et de ses complices. Elle appelle également à l'ouverture de poursuites contre l'ancien dictateur gambien et ceux qui portent la plus grande responsabilité dans les crimes commis en Gambie. Rede Brody de Human Rights Watch revient sur l'importance d'un procès contre Yahya Jammeh.
Les victimes gambiennes ont été inspirées par les exploits des victimes de Issenabré qui avaient trouvé justice ici au Sénégal. Dans le cas des massacres de migrants commis par Yahya Jammeh, les victimes ghanéennes et gambiennes ont décidé de saisir en priorité la justice du Ghana, car le Ghana a perdu 44 de ses citoyens et le Ghana n'est pas impliqué dans la politique gambienne comme l'est le Sénégal. Yahya Jammeh, il est accusé non seulement de ce massacre des migrants, il a abattu des journalistes, il a fait tirer sur des manifestants pacifiques, il a obligé des séropositives à suivre un traitement bidon contre le sida. Il a fait des littérales chasses aux sorcières. Il y a des milliers de victimes en Gambie qui demandent justice.
Rudy Brody de Human Rights Watch. Les parlementaires éthiopiens ont désigné aujourd'hui à l'unanimité pour la première fois une femme, Saleh Work Zewde, présidente du pays, après la démission de celui qui occupait jusqu'à présent ce poste essentiellement honorifique. La diplomate de carrière Saleh Work devient ainsi la quatrième chef d'État en Éthiopie depuis l'adoption de la Constitution de 1995. Ce texte prévoit qu'un président peut être élu pour un maximum de 2 mandats de 6 ans. Elle était jusque-là la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, auprès de l'Union africaine. Politique américaine, après l'émotion qui a suivi l'envoi des bombes artisanales à des détracteurs de Donald Trump, la politique a vite repris ses droits. Le président américain a appelé au rassemblement, mais a souligné la responsabilité des médias dans la détérioration du climat actuel, tandis que des démocrates accusaient le républicain d'attiser la violence. Eric Manirakiza.
Dans des moments comme celui-ci, nous devons nous rassembler, a déclaré le président américain. Les actes et les menaces de violence politique n'ont pas leur place aux États-Unis. Sarah Sanders, porte-parole de la Maison-Blanche, a dit auparavant que ces actes terrifiants sont ignobles et que leurs responsables devront répondre de leurs actes devant la justice. Mitch McConnell, chef républicain du Sénat, a dénoncé des actes de terrorisme intérieur en remerciant les forces de l'ordre qui protègent les personnalités publiques face à de tels actes inadmissibles. Les chefs démocrates au Congrès ont accusé Donald Trump de cautionner la violence physique et de diviser les Américains avec ses mots et ses actes dans ses rassemblements. Ces colis suspects, potentiellement explosifs, visaient l'ancien président Barack Obama, la démocrate Hillary Clinton, l'élu au Congrès et ex-présidente du Comité national du Parti démocrate, Debbie Wasserman Schultz, la parlementaire démocrate Maxine Waters, Eric Holder, ex-ministre de la Justice sous l'administration Obama, John Brennan, ex-directeur de la CIA sous Obama et le siège de la chaîne CNN. 2 jours auparavant, une bombe artisanale a été retrouvée chez le financier George Soros, autre démocrate. Aucun des colis n'est parvenu à ses destinataires, dont la vie n'a pas été mise en danger, et jusqu'ici, personne n'a revendiqué. Ces colis suspects surviennent en pleine campagne pour les élections de mi-mandat du 6 novembre.
Merci Eric. L'OTAN donne le coup d'envoi ce jeudi en Norvège au plus vaste manœuvre militaire depuis la fin de la guerre froide. Une façon de rappeler à la Russie la solidarité des alliés malgré les doutes insufflés par Donald Trump. Quelques 50 000 soldats, 10 000 véhicules, 65 navires et 250 aéronefs de 31 pays doivent prendre part à l'exercice qui vise à entraîner l'Alliance Atlantique à porter secours à un de ses membres en cas d'agression. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.